Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. On reçoit ce soir Thomas Deltombe et Laurent Bonelli qui avec Didier Bigot, viennent de diriger l'ouvrage au nom du 11 septembre, La démocratie à l'épreuve de l'antiterrorisme. Avec, c'est un ouvrage collectif avec une vingtaine ou un peu plus, trentaine d'articles qui viennent non seulement de France, mais de toute une série de pays. Et justement, on reviendra tout à l'heure sur comment ça a pu se dérouler et quelle vision on peut avoir de ces questions-là ailleurs qu'en France. Mais peut-être on peut dire deux mots sur le projet du livre lui-même. Dans l'introduction, vous dites que des livres sur le 11 septembre, il n'en a pas manqué, mais que principalement, il traitait des nouvelles figures de l'ennemi, des figures terroristes, mais que le versant que vous proposez d'explorer est resté assez vierge.
Ouais,
Thomas.
En fait, il y a eu effectivement des tonnes de livres, on en voit partout, il y en a encore plein sur les étalages des librairies, mais le problème c'est qu'on est confronté en fait à deux logiques un peu contradictoires. D'une part, la logique dominante, on va dire, qui dit, bon, va falloir faire confiance aux gouvernants, puisque la menace est terrible, on nous l'a dit, on l'a vu, il faut faire confiance à ceux qui nous dirigent sur ces questions. Et une autre logique qui va être, elle, une sorte de suspicion généralisée contre les gouvernants, en particulier contre les gouvernants américains, qui va aboutir à la logique de dire que finalement, tout partirait de Washington ou de la CIA, de la Maison Blanche, et que finalement, si on mettait, disons, des micros à la CIA, au Pentagone et à la Maison Blanche, on saurait tout de ces politiques terroristes et antiterroristes. Donc c'est des visions qui ont été appelées complotiques ou conspirationnistes. Nous, on essaie de changer de logique, de focale par rapport à ces deux logiques pour voir qu'il y a différentes dimensions dans les politiques antiterroristes qui ont été menées depuis le 11 septembre 2001. Logique qui préexiste en grande partie au 11 septembre 2001, le 11 septembre n'étant qu'un accélérateur, d'une certaine façon, enfin dans un certain nombre de cas, un accélérateur des logiques préexistantes ou un effet d'aubaine dans certains cas nationaux. Donc c'est un peu ces logiques-là qu'on a essayé d'explorer en voyant un peu la coordination qu'il pouvait y avoir entre les différents cas nationaux. Donc en fait, le livre se construit en trois parties, avec une première partie sur les logiques un peu globales, transnationales, les grands débats qui ont lieu depuis le 11 septembre sur ces questions. Ensuite, une partie sur des cas nationaux et ensuite des études de cas sur différentes affaires de terrorisme et d'antiterrorisme qui ont eu lieu avant et après, surtout le 11 septembre.
Oui, juste un mot, je crois qu'effectivement, très souvent, on a vu des études où, comme le disait Thomas à l'instant, finalement, la plupart des études ou des travaux se sont focalisés sur les groupes clandestins. Et je crois que finalement, ce qui est très intéressant et très important, c'est de comprendre qu'il existe une dialectique, il existe une dynamique, je dirais, de radicalisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier des groupes clandestins indépendamment, je dirais, des forces coercitives qui luttent contre eux. C'est-à-dire qu'on est finalement dans des logiques relationnelles, je dirais, où la radicalisation de groupes clandestins peut être produite par l'action des services de renseignement ou l'action des forces qui luttent contre le terrorisme. Bon, de ce point de vue-là, il est absolument singulier de constater de la situation afghane, par exemple, aujourd'hui, où on s'aperçoit que, fondamentalement, depuis ce qui se passe depuis le 11 septembre, notamment les logiques de guerre au terrorisme américaine avec la justification de la torture, avec l'emprisonnement, comme ils le font, sans procès, à Guantanamo, etc. Finalement, toutes les dynamiques de lutte antiterroriste américaine ont sans doute fait beaucoup plus pour le recrutement de groupes radicaux islamiques que 50 ans ou 20 ans, ce serait 20 ans serait plus correct, de dire de propagande d'Al-Qaïda. Je crois que donc il était important, vous voyez, de faire porter la focale finalement sur l'action de ces forces antiterroristes, d'autant plus que les rares bouquins qu'il avait abordé sous un angle assez normatif, c'est-à-dire que devraient faire les services de renseignement pour prévenir ce type de menace, ou sous l'angle juridique, c'est-à-dire bon, voilà, quelle est l'évolution des principales lois antiterroristes dans un certain nombre d'États. Peu de choses avaient essayé de croiser au niveau, effectivement, transnational, Thomas l'a dit, mais également national, les logiques à l'œuvre dans les propres services de renseignement. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Et là, on s'aperçoit qu'il y a des luttes, des évolutions, qu'on n'a pas une évolution linéaire, qu'on a des conflits entre différents services de renseignement et tout ça. Donc on a essayé de mettre un petit peu les mains dans le cambouis de ce que pourrait être la mécanisme antiterroriste après l'11 septembre.
Et puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'on a constaté qu'il y avait eu des mobilisations, enfin des résistances très fortes à certaines politiques antiterroristes, notamment la guerre en Irak, mais qu'il y avait des mobilisations qui n'existaient pas sur toutes d'autres mesures politiques, d'autres politiques qui étaient prises au nom du terrorisme, au nom du 11 septembre, sur lesquelles il y avait très peu de résistance finalement. Donc c'était important de pointer le doigt sur ces logiques pour que les lecteurs puissent comprendre un peu ce qui se passe, quoi.
Alors, avant de plonger dans ce livre, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose que tu as évoqué, Thomas. C'est la prolifique littérature complotiste. Il y a des films, et y compris, alors qu'on a peut-être regardé ça de manière un petit peu méprisante quand c'est arrivé, on voit que la prégnance qui peut y avoir autour de ces logiques complotistes. J'imagine qu'en plus elles sont diverses et elles proposent des hypothèses différentes.
Ben, je crois que ce qui est dommage sur ce bouquin, c'est que finalement on n'a pas dit que le 11 septembre était un complot, et voilà, parce que je pense qu'on serait aujourd'hui multimillionnaire.
Donc ça serait pas de venir en métro.
Ça serait exactement, ça serait pas mal. Donc, mais cela dit, bon, on l'a pas fait, donc évidemment on en souffre durement d'ailleurs. D'ailleurs, si les auditeurs veulent bien envoyer des chèques à l'émission qui transmettra, bon, non. Plus sérieusement, je dirais effectivement, il y a une vision complotiste, mais la vision complotiste est très fréquente sur l'histoire policière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en plus beaucoup plus facile, puisque fondamentalement, on va traiter des choses qui sont rarement publiques, dans lesquelles, effectivement, les services secrets sont secrets. Ils reposent sur des informations qui sont dites secrètes. Et donc, le silence sur une information est donc la preuve de son existence, et ça ouvre, je dirais, la place à toute une espèce de fantasmatique, si vous voulez, sur des services secrets omnipotents, omnipuissants, avec une puissance extraordinaire, capable de contrôler tout un tas de choses. Et effectivement, sur ce, ça, donc je dirais, c'est sans doute un sujet qui s'y prête, je dirais, extraordinaire, qui s'y prête de manière très importante. Il s'y prête d'autant mieux que finalement les attaques du 11 septembre ont été des attaques qui ont pris un petit peu par surprise la plupart des observateurs, alors y compris d'ailleurs au sein des services de renseignement, c'est-à-dire que des stratégies finalement assez classiques finalement d'attentats suicides, de mise en place, ont, je dirais, pris en défaut l'imaginaire politique d'un certain nombre d'observateurs occidentaux. C'est-à-dire que, alors même que les attentats suicides meurtriers étaient répandus depuis des années, je dirais en Extrême-Orient, au Moyen-Orient et ailleurs, on pensait, ou à tort, que finalement c'était pas possible, ou c'était assez impensable sur le territoire d'un État occidental. Et effectivement, on a vu les attentats du 11 septembre qui ont marqué, mais de manière beaucoup plus simple. On a vu les attentats de Madrid ou les attentats de Londres, je dirais, qui n'ont absolument rien coûté, qui ont été très meurtriers. Pensez qu'en un cas, en un attentat en Espagne, c'est l'attentat le plus meurtrier, alors même que c'est un pays qui connaît la violence politique depuis, le franquisme, etc. Vous avez un attentat qui fait plus de victimes qui est l'attentat le plus meurtrier. Et je crois que à la fois cette nouvelle manière de penser, enfin cette irruption de violence, de masse, d'attentats aveugles sur le territoire territoire d'États occidentaux qui n'y étaient pas habitués, plus tout le fantasme qui est lié et qui entoure de manière générale l'action policière, ouvre une porte finalement assez rêvée pour toutes les théories du complotisme telles qu'on peut les lire ici ou là.
Alors, votre livre propose plutôt l'inverse, parce que à sa lecture, ça va pas aider à le vendre. Ça, moi, je trouve qu'il n'y a pas franchement de révélation, mais vraiment une mise en perspective d'éléments qui sont lisibles et que justement, ces idées de complot, finalement, s'effondrent. On peut peut-être commencer à évoquer l'article que tu écris, Laurent, sur la question de l'antiterrorisme en France et comment elle va évoluer. Tu montres que je donne la fin, mais on va revenir au début. Tu montres que le 2001 n'est pas un événement si important que ça dans l'évolution de l'antiterrorisme en France, et qu'il y a une histoire à refaire pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui.
Je crois que c'est même pas 2001. C'est 2001 est un non-événement pour les services français. Je crois que juste avant de rentrer plus en détail dans les services français, je crois que finalement, mais tu le disais à l'instant, je crois que tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de révélation dans ce livre. Il n'y a aucune révélation. On ne va pas trouver des choses croustillantes. Par contre, ce qu'on va trouver, c'est effectivement l'analyse systématique de ce qui s'est passé dans un certain nombre d'États et plus difficile de logique transnationale, c'est-à-dire qui dépasse, je dirais, ces États. Comment des questions comme, par exemple, la torture, qui jusque-là était limitée aux dictatures latino-américaines ou africaines, devient quelque chose non seulement pratiqué par des démocraties occidentales, mais en plus justifié par elles, ce qui est le cas. Comment des services de renseignement peuvent se permettre d'enlever des citoyens étrangers sur des territoires étrangers. Comment, vous voyez, toutes ces questions-là, comment le développement à la fois technologique et législatif de la surveillance affecte la vie d'un certain nombre de gens et comment se développe un certain nombre d'accords internationaux de lutte contre le terrorisme. Tout cela, si vous voulez, ce sont des choses qui sont très souvent connues, plus ou moins de manière éclectique. C'est-à-dire les gens connaissent des noms, connaissent un certain nombre d'éléments. Si je vous parle de PNR, c'est-à-dire, bah, ça va peut-être, les auditeurs vont dire, ah oui, les PNR, c'est quoi? Oui, c'est les échanges de données sur les passagers d'avion, tout ça. Mais on ne voit pas vraiment comment tout cela fait système. Et je pense qu'une des vertus, sans doute, de cet ouvrage, et enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est une des vertus, mais en tout cas, ça a été une des volontés, ça a été précisément de présenter tout cela, de présenter, je dirais, de manière le plus cohérente possible, l'ensemble de ces dispositifs. Alors, pour en venir très rapidement à la France, oui, 2001 n'est pas seulement pas, ne constitue absolument pas une ligne de rupture, bien au contraire, puisque, je dirais, l'essentiel de l'architecture antiterroriste française était en place depuis le milieu des années 80. Vous avez une réforme de l'antiterrorisme dans les années 80, 86, menée à l'époque par des magistrats qui sont devenus des hommes politiques, comme Marceau, par exemple, qui à l'époque était un substitut du procureur à Paris, chargé des dossiers antiterroristes. Et grosso modo, cette architecture des années 80, elle va évoluer avec les attentats de 95, un petit peu. C'est-à-dire on va renforcer les principaux dispositifs. Et 2001 va passer, je dirais, tranquillement. Il va y avoir quelques modifications législatives, mais qui ne sont pas liées aux attentats du 11 septembre 2001, qui sont liées plutôt au climat d'hystérie sécuritaire, sur lequel vous avez l'occasion de revenir plusieurs fois ici, je le sais, pour y avoir participé également. C'est-à-dire, vous vous souvenez, 1997, colloque de Villepinte, conversion de la gauche à la sécurité. Vous avez une inflation sécuritaire qui est bien antérieure à 2001. Et finalement, 2001 passe. Quelques mesures qui étaient prévues dans la loi sécurité quotidienne sont rajoutées, mais rien de fondamental. Il faut attendre finalement 2007 pour qu'on ait la principale évolution en matière antiterroriste française, c'est-à-dire la fusion entre les renseignements généraux et la DST, on a peut-être l'occasion d'y revenir, qui ça représente véritablement un bouleversement, mais qui n'est pas tellement lié à la question du 11 septembre, mais plutôt, je dirais, à des vieilles velléités de réforme des services de renseignement, à un climat qui est celui d'une réduction du format de l'État, c'est-à-dire on est dans un contexte, vous l'aurez peut-être compris, et certains d'entre vous le savent peut-être, de réduction du format de l'État. On est plutôt en train d'enlever des fonctionnaires que d'en recruter. Bon, ben ça affecte y compris les services de renseignement. C'est des choses qui paraissent absolument stupides. Mais ça affecte tout le monde. Et donc, la fusion, c'est aussi une réponse à cela. Alors, tout simplement, bon, pour revenir un peu peut-être sur l'architecture. Oui.
Non, mais c'était sur l'évolution, j'allais te demander, l'évolution des gens qu'on surveille, parce que est-ce que cette évolution, elle se fait en parallèle de qui on surveille?
Alors, l'évolution, ce que je veux dire, c'est que ce qui est, je pense, intéressant à travailler sur ces questions-là, c'est de voir que, grosso modo, il y a des logiques qu'on ne s'attend pas à voir là. C'est ce qui est intéressant. C'est, grosso modo, une logique de rationalisation budgétaire. On ne pense pas spontanément à cela quand on parle d'antiterrorisme. En disant, les gars, ils font ça parce qu'ils ont moins d'argent, il faut concentrer les moyens. On se dit, merde, c'est pas ça. On pensait donc que c'était l'évolution de la menace. Non, concrètement, ce qui se passe, c'est que les évolutions au sein des services de renseignement, c'est l'évolution des menaces ou des menaces les plus préoccupantes évoluent dans le temps. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'avant l'effondrement du mur de Berlin, la DST s'intéressait beaucoup plus au contre-espionnage, c'est-à-dire aux agents du KGB ou des pays dits satellites à l'époque, qu'à tout autre sujet. Que les renseignements généraux étaient plus intéressés jusqu'au début des années 80 par le Parti communiste et par les gauchistes issus de l'après-68 que par un tout autre sujet. Bon, il est clair que l'effondrement du mur de Berlin laisse des services pléthoriques pratiquement sans rien à faire. Et vous avez des recompositions au sein des services, c'est-à-dire ces gens transfèrent ce qu'ils savent faire sur d'autres sujets. Et d'autres sujets, j'ai fait un entretien notamment intéressant avec l'un des responsables d'abord des renseignements généraux puis de la DST qui disait, c'est intéressant, il dit, on était au départ sur l'idée de « il existe des islamismes », il dit, et petit à petit, dans les rapports, on est passé à l'idée de « la menace islamiste ». C'est-à-dire, on a reconstruit un espèce d'ennemi aussi global que l'était le communisme, qui d'ailleurs était lui-même déjà construit comme quelque chose d'homogène, alors que les politiques roumaines n'avaient pas grand-chose à voir, et les politiques soviétiques qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir avec les politiques est-allemandes, ça c'est important. Donc on reconstruit, vous voyez, des globalités qui permettent de focaliser les moyens, bon, un certain nombre de choses. Et finalement, toute une série de transformations qui affectent les services de renseignement français au tournant des années 90, couplées avec des attentats qui sont d'origine géia algérien en 95, font qu'on va voir une accélération d'un certain nombre de services sur ces questions-là. Mais pas forcément tant que ça. Par exemple, la DNAT, qui est la Division nationale antiterroriste, qui est l'un des principaux services de police judiciaire confrontés à cela, va s'intéresser beaucoup plus à la fin des années 90 au thème corse, puisque le préfet Erignac a été assassiné, donc abandonne à peu près tout travail sur l'islam ou sur quoi que ce soit pour se focaliser sur ces questions. Et aujourd'hui, force est de constater que, effectivement, selon, au gré, je dirais, de l'actualité, de la violence politique, pourrait-on dire, ben, vous avez des réorientations de services. L'islam est devenu aujourd'hui, effectivement, quelque chose de très important au sein des services. Ça l'était avant 2001. C'est-à-dire que la question des djihadistes transnationaux, ce qu'on appelait les djihadistes transnationaux, comme le disait en entretien un membre d'un service de renseignement, disait, c'est très intéressant, il dit, on commence à se préoccuper de cette question-là à partir de la sortie des Russes d'Afghanistan. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on les finançait, ce n'était pas un problème. À partir du moment où ils commencent à se retourner contre nous, ça le devient. Et la question de Ben Laden était posée bien avant, par exemple, le 11 septembre 2001. C'est des choses qui sont assez intéressantes. Alors, tout ça pour dire que, grosso modo, vous avez des évolutions. Vous savez, tout ça n'est jamais un processus linéaire. C'est ce qui est très intéressant à constater. Quand il y a eu un attentat contre le président de la République sur l'extrême droite, alors que les agents n'avaient aucune impossibilité à surveiller l'extrême droite, ils n'avaient pas droit aux écoutes téléphoniques, ils n'avaient droit à rien. Il y a eu un attentat pendant un an, ils ont bénéficié d'un effet d'aubaine, ils avaient toutes les écoutes qu'ils voulaient, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient pour surveiller l'extrême droite. Bon, voilà, tout cela évolue, je dirais, au gré des préoccupations des gouvernements, au gré des préoccupations d'un certain nombre de services. Maintenant, il existe effectivement, la question de l'islam est devenue, effectivement, est un des pôles centraux, en tout cas, avec les questions des qu'ils appellent les nationalismes violents des services français.
Ça dure depuis des siècles, y a pas de solution, je te jure. Puis tu nous fais l'affront d'essayer d'être jugé parti, t'es pas mal parti. On peut pas être le maître du monde sans mépriser le monde.
J'ai vu les masters parce qu'à ça ça gronde.
On peut pas être le maître du monde et puis aimer le monde. On sombre son nombril de l'ombre.
On peut pas être le maître du monde sans faire chier le monde.
Ça prend plus qu'un plaster pour calmer la fronde. On peut pas être le maître du monde.
Tu mets ma tête dans plein de monde.
J'ai choisi mon cas. Tu me l'as demandé le grain. Entre le petit monde ou le roi, c'est pas toi mon choix. C'est quoi les mois? Tu t'attendais pas à t'attendre. C'était ça essentiel, l'essentiel de ton bord. Si tu veux faire
l'enfer,
la mort, tout est relatif ici bas. C'est ça qui va pas. Mais relax, du mal, y'en a partout, même
surtout
dans ton bout. Tu vois ton pas que la myopie des crises, t'es des crises. Au fond, c'est ton fondamentalisme. Presbyte, t'es casse-couille. Mais en moins hypocrite, en plus on se débrouille. Ta fatuité de fatax fait qu'il faut forcer forcément un peu plus pour faire fuir le minus qui se camoufle au très fond de toi. Tu fais peur au monde, mais fais gaffe à la France.
Ça gronde, ça gronde.
Et on peut pas être le maître du monde sans mépriser le monde.
J'ai vu les masters parce qu'à ça, ça gronde.
On peut pas être le maître du monde et puis aimer le monde. On sombre son nombril de l'ombre.
On peut pas être le maître du monde sans faire chier le monde.
Ça prend plus qu'un plaster pour calmer la fronde. De faction. Une infraction est à un coup d'exact. Tôt, tôt ou tard, les exactions vont pleuvoir.
La mission entre en fonction de ton calcium.
Tu passes à l'action, même si rien à faire que de raser tous les arbres. Dans les pays où c'est que ils portent la barre. Faire sauter toutes les cavernes, c'est de l'impatience. Fiction du Jules Verne. Mais t'as raison, ça prendrait beaucoup trop de temps. Sans tension, sans temps de repentance. C'est des excuses honnêtes et nettes à la planète pour que se mettent à t'apprécier. Tous les peuples que t'as tapés à la la sympathie comme arme de persuasion massive. Tu m'as dit que j'avais le même discours qu'Oussama Ben Laden. Oussama fait Ben la peine.
Et on peut pas être le mind du monde sans mépriser le monde.
Et voilà, c'était Loco Locas et c'est toujours Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. On est toujours avec Laurent Bonelli et Thomas Deltombe à propos du livre qu'ils ont co-dirigé au nom du 11 septembre, Les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme. On va maintenant se tourner vers Thomas Deltombe. Toi, tu dans l'article que tu publies dans cet ouvrage collectif, tu reviens sur le rôle des experts et voilà. Alors peut-être tu pourrais nous présenter un petit peu qui sont ces experts et quel va être leur rôle et leur utilité dans ce processus qui est en partie médiatique mais qui ne se joue pas que dans les médias.
Non, en fait, dans le livre, surtout dans la troisième partie du livre, on a essayé aussi de parler un peu des narrations qui sont faites autour du terrorisme, des récits qui sont faits autour de l'antiterrorisme, du terrorisme, toutes ces questions-là. Donc il y a plusieurs chapitres qui abordent ce sujet-là, en tout cas. Et moi, j'ai travaillé sur l'explosion, en fait, de l'expertise terroriste, antiterroriste, notamment à la télévision française. Donc je parle de tous ces experts qu'on voit presque systématiquement et presque immédiatement après un acte terroriste en France ou ailleurs d'ailleurs. Des noms, je ne me souviens même plus des noms à la limite, ça n'a pas grande importance, mais j'ai essayé de voir d'où venaient ces gens et comment ils étaient devenus, finalement comment ils avaient réussi à gagner une parole légitime, en tout cas légitimée sur ces questions. Donc c'est une logique qui remonte à assez loin des années 80, au moment où on se met de plus en plus à parler de terrorisme, où le terrorisme en tant que tel devient un sujet, un dossier. Voilà, on a un dossier terrorisme dans les rédactions. Il y a un problème, c'est que les journalistes, souvent, quand il y a un acte terroriste, ils ne savent pas très bien quoi dire, quoi, juste après l'attentat. Et pourtant, il y a un effet, disons, de sidération très fort. Donc, il y a besoin de combler les antennes, de parler de ce qui vient de se passer sans avoir, en fait, grand-chose à en dire. Et donc, à partir de là, finalement, des journalistes dans les rédactions se sont mis à se spécialiser. Et petit à petit est venue une autre idée qui était d'inviter finalement des intervenants extérieurs, donc ceux qu'on appelle aujourd'hui experts. Ça vient aussi d'une logique, d'une évolution des médias. Tu parlais tout à l'heure, Laurent, de la privatisation, en tout cas du recul du public, enfin la politique publique, et bien c'est aussi la même chose dans la télévision, c'est-à-dire qu'avec la privatisation des chaînes et puis la privatisation d'un certain nombre de programmes à l'intérieur des chaînes publiques, il y a eu cette volonté de faire des économies, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on va inviter quelqu'un qui a écrit un livre ou qui se présente comme un expert et puis on va le faire parler. C'est très pratique et souvent pas très intéressant, mais en tout cas, c'est économique. Et donc, on voit apparaître toute une série de gens qui sont en fait la plupart du temps des anciens journalistes ou des journalistes, tout bêtement, qui se présentent maintenant, à partir de la fin des années 80 et dans les années 90, comme des experts. Alors, ils ont des titres assez ronflants, hein, qui montrent bien qu'ils sont des experts. Et ils interviennent très rapidement après les attentats. Et à chaque fois qu'il y a des émissions spéciales ou des émissions de plateau où on discute du terrorisme et de l'antiterrorisme. Alors, le problème, c'est que les gens qui sont ainsi invités qui sont, et qui interviennent extrêmement souvent n'ont pas grand-chose à dire. Et finalement, ont un profil assez particulier aussi, puisque à partir du moment où on invite des gens pour parler très vite, faire du fast thinking sur le terrorisme et l'antiterrorisme, c'est des gens qui ont une vision très simpliste, très schématique des causes et des conséquences et des mécanismes qui sont derrière les actes terroristes. Donc voilà, et ça s'est développé dans les années 90 et a explosé après le 11 septembre avec... Et là, après le 11 septembre, ils ont eu une sorte de champ libre pouvant dire, comme quelque chose qui n'avait pas été anticipé avant le 11 septembre s'est produit, ils sont allés très loin finalement dans les scénarios du pire, enfin les scénarios apocalyptiques, nous prévoyant des attentats à chaque minute et rentrant dans une logique catastrophiste et appelant finalement à une répression très sévère et très large des suspects ou des possibles suspects de ces actes de violence.
Et si on comprend bien pourquoi les journaux télévisés notamment font appel à ce genre d'experts, notamment pour des raisons d'économie comme tu viens de le dire, à l'inverse, pourquoi est-ce que les experts y vont ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont quelque chose à vendre par ailleurs ? Est-ce que c'est pour des questions de militantisme ou quelque chose comme ça ?
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ils viennent. Et souvent, c'est des gens qui ont une idéologie assez forte derrière, hein, une idéologie assez conservatrice, souvent issus aussi de la guerre froide, bizarrement, enfin... qui ont l'anticommunisme chevillé au corps finalement et qui replaquent les analyses d'il y a 20 ans sur le communisme, comme disait Laurent, sur maintenant ce nouvel ennemi qu'on appelle islamiste. Donc il peut y avoir cette motivation-là, mais à mon avis, ce n'est pas la motivation première. Leur motivation première, c'est qu'en fait, c'est les titres dont ils s'affublent et dont les journalistes les affublent pour les présenter sur les plateaux de télévision ou dans les journaux télévisés, sont en fait les titres d'entreprise. Hein, ils sont souvent consultants, ils ont des boîtes tout bêtement et ils vendent des services, soit des administrations, soit des entreprises privées, alors analyse de risque, tout un business finalement sécuritaire qui se vend assez cher, surtout de nos jours. Donc c'est aussi un moyen publicitaire et par ailleurs ils peuvent écrire des livres, c'est souvent ce qui justifie entre guillemets leur invitation sur les plateaux de télévision. Qui, pour certains, se vendent extrêmement bien. Ils sont donc un moyen de gagner sa vie.
Mais alors, du coup, il y a aussi une utilité, un effet de ce discours, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais les attentats du 11 septembre, au moins dans le discours des politiques, vont justifier un certain nombre de reculs des libertés publiques. Et est-ce que, quelque part, leur discours fait partie de cet appareil-là ?
Alors justement, moi, j'ai beaucoup interrogé finalement d'experts, de journalistes, qui m'expliquent ce phénomène, comment de l'apparition et des experts et d'expertise antiterroriste. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans leurs réponses, ils se critiquent les uns les autres en disant « Oui, un tel, il dépend de tel service, un tel de tel service, autre service étranger, la CIA, ou je ne sais quoi. » Mais en fait, finalement, on a l'impression que personne ne sait véritablement qui sont ces gens-là. C'est ça qui est assez étonnant, même quand on interroge des journalistes qui eux-mêmes les invitent, on leur dit « Mais tel, est-ce que vous savez qui c'est, son histoire ?» À la limite, ils préféraient pas savoir, parce qu'eux, ils ont besoin de ces gars-là, finalement. Ils ont besoin d'avoir des gens dans leur micro pour parler de ces phénomènes-là. Donc, finalement, ils savent pas où... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces experts, à mon avis, sont à peu près des... Ils sont pas dépendants des services. Je veux dire, les gens qui travaillent vraiment sérieusement sur ces questions sont pas du tout affiliés à ces experts. Peut-être certains d'entre eux, mais c'est pas la logique générale. Ce qui est intéressant, c'est que les experts, par contre, singent les logiques de l'antiterrorisme officiel, on va dire, parce que c'est une prise de risque moindre par rapport à d'autres discours qu'ils pourraient porter. Donc s'ils se mettent à se calquer sur les logiques officielles, même s'ils font des erreurs, ils pourront dire « Oui, oui, mais écoutez, les services disent la même chose. On dit la même chose. Ils se sont trompés, moi aussi, c'est normal. Regardez, il y a une sorte de proximité. Ça prouve bien que j'étais bien informé d'une certaine façon. » Enfin, donc, c'est assez simple. Et c'est beaucoup plus intéressant pour eux de se calquer sur la logique donc officielle. L'autre chose intéressante, c'est qu'avec ce catastrophisme généralisé... Ils sont aussi des très bons clients. Je veux dire, c'est intéressant pour les journalistes, pour les médias, d'avoir des gens qui font peur, tout bêtement. Qui disent aux téléspectateurs en permanence qu'il faut qu'ils soient sur leur garde, qu'il faut qu'ils soient mobilisés, il faut qu'ils fassent attention à leurs voisins, etc., etc. Et donc, on a finalement finalement, ils adoptent les logiques de suspicion généralisée ou de stigmatisation d'un certain nombre de populations. Et ça, c'est assez clair. Tout à l'heure, tu parlais de l'islam. C'est assez clair qu'il y a une stigmatisation quasiment pour tous. Hein. Tous les gens, j'ai regardé des heures et des heures d'émissions avec des experts passionnants sur ces sujets. Et tous, à chaque fois, ils en arrivent à la conclusion que l'ennemi, finalement, c'est même pas le terrorisme en tant que tel, c'est l'islamisme. Et ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont à peu près tous focalisés sur la même logique, qui est une logique qu'ils décrivent eux-mêmes comme, alors ça c'est des mots qu'ils utilisent, hein, une logique de poupée russe ou de cercle concentrique, c'est-à-dire on a le terroriste au milieu du cercle, ensuite on a l'islamisme ou le djihadisme, ensuite on va avoir l'islamisme modéré, ensuite on va avoir comme ça des cercles concentriques. Et en gros l'idée c'est de dire, si on veut tuer le centre du cercle, il va falloir assécher tout ce qu'il y a autour, parce que c'est finalement ça qui fait vivre, c'est l'islamisme en général, le terme assez flou et en fait très vague, et à mon avis très idéologique, c'est en asséchant et en tuant l'islamisme qu'on va éradiquer le terrorisme. Et ça peut aller très loin. Le problème, c'est que l'islamisme, ça ne veut rien dire, en réalité. Enfin, c'est un concept qui a été forgé dans les années 80 de façon assez sérieuse, assez bien définie, sauf qu'au fur et à mesure des années, ça a été repris finalement par les médias, par le discours ambiant et le discours dominant, et c'est devenu un véritable, une machine de guerre en réalité contre toute une partie de la population qui a une allure musulmane.
Alors tu l'évoques en partie dans ce que tu dis, mais derrière l'islamisme, il y a aussi l'idée qu'il y aurait un choc des civilisations. On voit ça de manière assez prégnante dans le discours dans les discours de Sarkozy. On voit ça. Il y a aussi ce dégage. Enfin, ça rejoint un peu l'objet de votre livre, c'est que derrière le 11 septembre, il y a en filigrane avant, après, je sais pas quand, mais l'apparition de cette idée qu'il y aurait des civilisations et une inévitable confrontation.
Non, c'est sûr que dans ces logiques-là, que ce soit celle dont je viens de parler ou d'autres plus générales à titre politique, il y a une culturalisation de toutes ces questions de sécurité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a même une théologisation de ces questions. Et ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie à des logiques anciennes. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Quand on regarde les discours qui sont tenus, par exemple, par les experts dont j'ai parlé ou d'autres, on retrouve des logiques extrêmement similaires à celles qui existaient pendant la guerre d'Algérie. C'est assez frappant, d'ailleurs. C'est parfois stupéfiant, en réalité. Il y a un certain nombre de chapitres, enfin, il y a, je crois, deux ou trois chapitres, qui évoque les racines coloniales de ces discours ou de ces politiques dites antiterroristes. Parce que, comme vous savez, le terrorisme était un terme qui était utilisé pour parler des nationalistes algériens ou d'autres nationalistes dans le tiers-monde. Enfin,
oui, je crois qu'il y a vraiment une dimension qui est très importante, c'est qu'effectivement, il y a des discours sur cette culturalisation, alors même que quand on regarde par exemple le profil, il y a un très bon rapport qui vient de sortir sous cet angle-là de la part du principal service de renseignement britannique, qui est l'ancien MI5, qui est aujourd'hui le Security Service, qui disait, à partir d'une étude fine sur les trajectoires des gens qui ont posé des bombes, on se rend compte qu'on a plutôt des gens qui sont plutôt pas religieux, plutôt pas croyants, qui ont en tout cas une pratique très, très relâchée, qui sont plutôt des gens qui sont plutôt radicalisés dans des groupes comme des groupes de sport ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un discours, finalement, on a des profils de gens qui sont aux antipodes, finalement, des discours qui sont développés. Ce qui ne veut pas dire, je crois que c'est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tordre le bâton dans l'autre sens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes radicaux qui sont dans une logique de clash des civilisations. Mais je crois qu'une des vertus du bouquin, ou en tout cas des réflexions qu'on essaie de mener là-dedans, c'est que précisément, dans cette logique de clash des civilisations, dans cette logique de guerre contre le terrorisme ou de guerre contre l'Occident, qui est lancée par des groupes radicaux, il y a un présupposé qui est commun aux deux camps, qui est l'idée qu'on est dans une guerre, et qu'on est dans un camp ou qu'on est dans l'autre. Or, précisément, je dirais, la seule posture raisonnable, la seule posture intelligente, est de refuser cette polarisation, de dire on est dans un camp ou dans un autre, mais précisément de se présenter en tierce partie, c'est-à-dire en observateur de ce que font les uns et de ce que font les autres. Les uns comme les autres sont engagés dans une lutte, et dans un certain nombre de cas, dans une lutte à mort. Dans cette lutte à mort, il y a effectivement, toutes les armes sont bonnes, et toutes les armes intellectuelles et idéologiques le sont également. C'est la propagande. Alors la propagande, on a essayé dans un certain nombre de textes de cet ouvrage de montrer ce que pouvait être la propagande officielle, ce que pouvaient être les constructions intellectuelles, quand Thomas parlait tout à l'heure de récits, un certain nombre de choses, c'est qu'est-ce que ça veut dire quant aux services, et c'est délibérément de présenter une version biaisée de la réalité d'une situation pour créer une alarme sociale, pour solliciter ou pour susciter la mobilisation des citoyens derrière un gouvernement et derrière des mesures coercitives. Donc on a essayé de montrer cela, on ne l'a pas fait sur l'autre camp, parce que je pense que de ce point de vue-là, ça a été davantage fait, sans doute, mais je crois que c'est sans doute une dimension qui est véritablement centrale dans ce qui est en train de se passer, c'est la capacité à se décentrer par rapport à cela. Cette capacité à se décentrer et à mettre en question les pratiques qui, au nom de l'attentat, au nom de cette confrontation, sont mises en place par alors, des groupes clandestins, mais aussi par des gouvernements. Et je crois que, effectivement, dans ce climat intellectuel, qui est un climat de guerre, qui est présenté intellectuellement comme une guerre, effectivement, l'argument de la trahison est quelque chose qui est véritablement fort. C'est-à-dire, on vous dit, bah oui, vous faites le jeu de l'ennemi en mettant en lumière quelles sont les pratiques. Quelles sont les pratiques exceptionnelles, exceptionnalistes, qui peuvent se développer dans un certain nombre de démocraties occidentales. Et je crois que c'est sans doute là, je dirais, qu'au contraire, il faut faire porter le fruit de la critique. C'est-à-dire, c'est précisément en mettant en question ce qui est en jeu, ce qui est en train de se passer dans une série de démocraties qui se définissent comme des démocraties occidentales. Et là encore, je crois qu'on l'aborde également, il y a des différences à faire. Ce qui se passe en Russie n'est pas la même chose que ce qui se passe en France ou en Allemagne. Ce qui se passe en Libye n'est pas pareil que ce qui se passe en Italie. Je crois que là-dessus, il faut être très clair. C'est un discours qui hélas, est très souvent amalgamé en disant bon, finalement, on a une sorte d'exception généralisée. Non, je crois qu'il faut être précis. Et je crois qu'il faut être précis pour une raison très simple, c'est que si on veut lutter contre ce qui est en train de se passer, je pense que c'est là-dessus qu'on peut faire porter, je dirais, les rapports de force et qu'on peut faire porter le levier.
Et puis, il y a des différences nationales aussi, parce que tous les pays ne partent pas du même point. C'est-à-dire que chaque pays ou chaque zone géographique a son histoire propre du terrorisme. D'ailleurs, dans le livre, il y a un certain nombre de questionnements autour de la compatibilité des différentes définitions qui sont données au terrorisme. Et ensuite, comment on peut rendre compatibles les institutions essaient de rendre compatibles leur définition individuelle du terrorisme, ce qui a pour effet d'ailleurs en grande partie d'élargir la définition du terrorisme. Bon, toi tu penses que c'est ça, moi je pense que c'est ça. Bon, si on se met ensemble, ça va être les deux. Voilà. Et donc ça élargit quand même largement. Et dans cette logique de l'élargissement, quand tu dis qu'un certain nombre qu'effectivement la radicalisation n'est pas forcément liée à la croyance, etc., tout ça, ça va être récupéré dans les discours des experts comme, bon, vous voyez bien, même les gens qui n'ont pas l'air trop musulmans, vaut mieux s'en méfier quand même. Et d'ailleurs, moins ils ont l'air musulmans, plus il faut s'en méfier. Parce que ça veut dire qu'ils sont susceptibles de s'infiltrer dans les zones où il faut faire des attentats. Il y a toujours une sorte de récupération de ce discours, et plus ça va, plus la menace grandit, en tout cas dans les récits. Et donc, il y a un cas qui est intéressant aussi, c'est le cas qui est étudié par Laurent Bonnefoy sur Al-Zarqawi, où il y a une sorte de... Il y a un personnage que vous avez peut-être tous oublié, Abu Musab Al-Zarqawi, le Jordanien, qui était donc en Irak à partir de 2002-2003, C'est un petit bonhomme au départ, il est présenté comme une petite frappe. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, il devient quasiment le chef de Ben Laden. Je veux dire, il est monté en puissance dans les récits médiatiques, notamment américains, mais aussi dans différents pays. Il y a des émissions à la télévision française sur Zarqawi. Quand on regarde ça a posteriori, c'est presque à en rire, quoi. Alors, quand après, on s'aperçoit, on revient à une forme de réalité, qu'on s'aperçoit que Zarqawi, quand il tire au fusil, il se brûle avec son fusil parce que finalement, il n'a jamais tiré une balle de sa vie, on se dit, tiens, tous les récits qui nous ont été faits pendant les 2 dernières années, ils sortaient d'où ? Et donc, il y a un chapitre qui étudie ce phénomène, finalement, avec un récit totalement fictionnel d'une figure comme Zarqawi pour incarner après. Là aussi, il y a une sorte de... Il y a une instrumentalisation. On ne construit pas une figure comme... La figure mythique d'Al-Zarqawi à l'aveugle, ça sert à calibrer le récit qui est fait du conflit en Irak. Bon.
Et avec un effet retour qui est l'effet que Al-Zarqawi conquiert au final, au sein des insurgés irakiens, une légitimité qu'il n'avait pas, puisqu'il est devenu l'ennemi numéro un. Je voudrais juste dire un mot là-dessus, je crois que ce qui est très très important, et c'est ça par contre, ça s'est accéléré avec le 11 septembre, c'est que la question de la labellisation terroriste que soulignait Thomas tout à l'heure est un vrai phénomène, puisque quelqu'un qui est un terroriste pour quelqu'un est un réfugié politique pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'aucun groupe ne se revendique comme terroriste. Il se revendique comme soldat de l'islam, avant-garde du prolétariat, combattant de la liberté, etc. Je veux dire, c'est que celui qui est considéré comme terroriste pour un gouvernement, peut véritablement être un combattant de tout un tas d'autres choses. Et précisément, ça a des effets. Alors, ça a des effets forts, puisque, bien sûr, il s'agit de la légitimité ou de l'illégitimité d'un combat. Et à partir du 11 septembre, un certain nombre d'États ont utilisé précisément leur engagement dans la guerre antiterroriste en disant, écoutez, on va vous appuyer dans la guerre antiterroriste pour, précisément, marginaliser leurs oppositions politiques internes. Ça a été valable pour la Chine, ça a été valable pour la Russie, ça a été valable pour la Libye, ça a été valable pour l'Algérie, ça a été valable pour tout un tas, je dirais, d'États qui, grosso modo, en échange de leur engagement dans la guerre contre le terrorisme, ont reçu de la part de la communauté internationale une très vaste tolérance sur les formes de répression politique interne. C'est également le cas de l'Ouzbékistan. Un dernier mot. Je crois que cette dimension, elle est véritablement centrale parce qu'elle a évolué, elle a permis de faire évoluer les législations européennes notamment. En Europe, vous avez eu tout un combat de l'Espagne, un combat assez méconnu de l'Espagne, un chapitre qui y est consacré, pour les Espagnols, en ayant marre, grosso modo, que les réfugiés basques puissent se promener tranquillement en France ou en Belgique, pour faire en sorte qu'à partir du moment où on acceptait que l'Espagne était une démocratie, dire qu'on ne pouvait plus avoir de réfugiés politiques en Europe. Et il y a là-dessus quelque chose qui a été mené sous Aznar, qui était le gouvernement conservateur de l'époque, qui a été un véritable succès diplomatique, qui a été de détruire le statut de réfugié politique en Europe. Aujourd'hui, en Europe, un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ne peut pas obtenir le statut de réfugié politique dans un autre État membre. Ce qui pose la question des Italiens, on parlait tout à l'heure de Marina Petrella, qui pose la question d'un certain nombre de Turcs qui ont la nationalité allemande, etc. etc.
Originally ranked in the science super group, Ancient definition,
original,
collective madness, boy.
Yeah, yeah. Boom, 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 boom.
Pretty wicked combination.
Yeah.
Ancient definition.
Yes, I.
Science super group.
J'ai les mêmes vécu que les gars du sang. Bien sous pas gros puissant. Sian des foundations, c'est le même, on a la marre de ne pas avancer. On ne les répétera jamais, mais c'est pour s'unir. Plus qu'on fut un vrai collectif, les enfants sont punis. Récolter un pur effectif pour encore mieux les punir. Les uniformes pour tout en finir, avoir un réel devenir. Le lendemain, dans ma panne, c'est le même combat par les sens. Ça défouraille, ça vend de la cam et les approfitages du drame. On n'est pas là pour s'apitoyer sur nos sommets, sans nos alarmes. Protégeant chacun nos premiers cartes, de rien avant, trop plus qu'on rame.
Into the collective mode, and then you need to get into the collective mode. So-
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front, et ce soir on reçoit Thomas Deltombe et Laurent Bonelli qui viennent de publier sous leur direction le livre Au nom du 11 septembre, La démocratie à l'épreuve de l'antiterrorisme. On voulait aborder la question des libertés publiques. Alors là, cette question, elle peut être placée désormais à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que suite aux événements du 11 septembre, on assiste à une sorte de dialectique de la liberté assez nouvelle qui, en gros, nous dit... pour maintenir vos libertés fondamentales de vivre en démocratie, il va falloir peut-être renoncer, pour vous ou pour d'autres, à certaines libertés. Et ça peut aller évidemment très très loin, jusqu'à des choses comme Guantanamo. Je pense qu'il faut peut-être revenir sur cette question de l'aspect désormais relatif de la liberté.
Oui, alors je crois. Enfin, d'abord, je crois que ce qui ressort des études croisées, ce qui est très intéressant, je crois que c'est d'abord, tout ne date pas du 11 septembre. Ça, je crois qu'il faut, c'est vraiment un élément absolument clair. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, je dirais, très, très longue, finalement, des appareils policiers à demander plus de pouvoir, de vouloir s'affranchir des pouvoirs judiciaires, de pouvoir s'affranchir des pouvoirs de contrôle. C'est quelque chose qui est plutôt net. Mais alors que c'est assez amusant quand on regarde cette histoire, donc des services de renseignement et autres, on s'aperçoit que dans les années 70, 80, il y a eu une mise à plat dans un nombre de pays. Ça a été valable aux États-Unis, ça a été valable en Italie, ça a été valable en France, ça a été valable dans un certain nombre de pays. Il y a une certaine mise à plat des services de renseignement pour finalement tous les coups tordus, en ce modo, qu'ils avaient fait dans les années 60, dans les années 70. Et ce qui est intéressant à l'époque, c'est qu'on essaie finalement de limiter assez fortement les pouvoirs de ces services-là en disant, bah, attendez, on va les encadrer avec des commissions parlementaires, on va regarder un peu ce qu'ils font, on va leur enlever des pouvoirs de police judiciaire, on va leur interdire de faire une série de choses. Et de voir qu'à partir de ce moment-là, bah, grosso modo, c'est toujours un bras de fer, hein, permanent, bon, vous avez ces services continuent, recommencent à nouveau à essayer de retrouver un certain nombre de pouvoirs. Et je crois qu'il y a deux logiques qui s'affrontent de manière très très dure, qui sont la logique du renseignement et la logique judiciaire. Je l'expliquais très clairement, la logique judiciaire, c'est quoi ? C'est précisément que vous êtes coupable, enfin en tout cas vous êtes innocent jusqu'à ce qu'on n'ait pas prouvé votre culpabilité. Ça veut dire, c'est un travail de police criminelle qui consiste tout simplement à réunir des preuves que vous avez fait tel ou tel délit, que vous avez commis tel ou tel délit ou tel crime, et vous êtes jugé en vertu de cela. Or, l'antiterrorisme ne repose pas sur des logiques criminelles, puisqu'on essaie, la plupart du temps, de prévenir des attentats, c'est-à-dire d'intervenir en amont de la commission des actes. Et là, s'opère une espèce de... Enfin, il y a une difficulté concrète dont vous touchez immédiatement la teneur, qui est comment peut-on arrêter des gens, juger des gens, condamner des gens pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Et c'est justement l'affrontement entre ces logiques de police criminelle et de renseignement que le 11 septembre va véritablement radicaliser. Et dans une certaine mesure, ce qu'on a vu à Guantanamo, ce qu'on a vu avec les extraordinary renditions, c'est-à-dire les enlèvements de suspects sur le territoire étranger, c'est une sorte de logique pure, pourrait-on dire, de ce renseignement. C'est-à-dire la capacité de soupçonner quelqu'un, de l'arrêter hors de tout cadre légal, de le soustraire donc à sa liberté, et de l'incarcérer, puisque c'est le cas de Guantanamo, mais pas simplement Guantanamo. Il y en a des bases au Kosovo, il y a des bases dans l'océan Indien. L'Angleterre, à partir de 2001, avait permis l'incarcération des étrangers qui refusaient d'être expulsés de manière indéfinie. C'est une espèce de logique pure du renseignement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'extraire de ces gens des renseignements sans être finalement embêté par un quelconque cadre légal, du fait qu'on a le droit qu'il faut les relâcher après une garde à vue, etc. Allant même, dans certains cas, jusqu'à l'extraction des informations sous la torture. Or, cette logique, qui est une logique extraordinairement forte, je dirais, l'a emportée, ou est en passe de l'emporter dans un certain nombre de pays, sur les logiques qui sont les logiques de police criminelle, qui, finalement, ne font que les gens ont les droits de savoir ce qu'on leur reproche, ont le droit d'essayer de se défendre, d'avoir un avocat, et en tout cas, tant qu'on n'a pas prouvé leur culpabilité, ils sont innocents. Alors, dans ce paysage un peu difficile, on a effectivement, comme disait Thomas pendant la pause, une espèce de cocorico national, c'est-à-dire en disant, la France, on est quand même vachement mieux que tout ça, on a un système que tout le monde nous envie. Alors, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux non plus, puisque la France a un système très particulier, je disais tout à l'heure, qui date du début des années 80, du milieu des années 80, pardon, qui est une figure juridique très spécifique qui s'appelle l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et qui est une figure juridique merveilleuse puisque précisément, elle permet de mettre en prison des gens pour lesquels on n'a pas de preuve de leur culpabilité. C'est-à-dire qu'un service de renseignement suspecte quelqu'un d'être lié d'une manière, ou d'une manière quelconque à un réseau qui se propose d'avoir des actions violentes. Ça veut dire, ça peut être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait des faux papiers pour un GIA algérien, par exemple. Sur la base de l'association de malfaiteurs en relation avec l'entreprise terroriste, on peut arrêter cette personne et la mettre en détention préventive pendant 2 ans. Il y a forte chance qu'au procès, elle soit innocentée, ou en tout cas elle ne soit pas condamnée, ou en tout cas elle soit condamnée à une peine inférieure à celle qui a été sa détention préventive. Mais ça permet ce que les professionnels de l'antiterrorisme appellent le coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire d'arrêter de manière extraordinairement large des gens. Vous avez peut-être en mémoire l'exemple de Follembray, qui avait été là-dessus un coup de filet dans tous les milieux islamistes français, où on avait arrêté plus de 100 personnes, et dont on s'est aperçu que plus de la moitié d'entre elles ont été innocentées. Je dirais, et que les autres ont été...
Non, mais, oui, surtout, la plupart des gens n'ont jamais... ils ont été expulsés de France.
Non, ils ont été expulsés, mais je dirais, au procès, je dirais, on a des condamnations.
Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès, du tout. Il n'y a pas eu de procès,
si,
du
si,
tout.
Il y en a 4, il y en a 4.
Ah, il y a Chrysanthème, mais sur Follembray, il n'y a absolument rien.
C'est ça. C'est-à-dire, on expulse des gens, on en juge, je veux dire, 4 ou 5 au final. Enfin, vous voyez, c'est des choses assez délirantes. Bon. Et pour le reste, je dirais, donc d'une part, ça permet de mettre des gens en détention préventive, c'est-à-dire de casser les réseaux, ce qu'on appelle, et pour le reste, ça permet de condamner des gens. J'ai eu des chiffres qui sont des chiffres... Alors pour le coup, vous parlez, il n'y avait pas de révélation aussi, ça s'en est une, puisque ce chiffre n'était jamais sorti, enfin, il y en a eu. Enfin. Vous apercevez que sur les gens condamnés pour des actes de terrorisme, entre 50% et 80% des gens condamnés chaque année en France pour les faits de terrorisme le sont pour association de malfaiteurs en relation avec entreprises terroristes au titre de peine principale. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait de plus grave. Et ça, je crois que vous voyez, c'est vraiment une figure absolument particulière parce que, de ce point de vue-là, le système judiciaire français, et qui ne peut fonctionner que parce qu'on a des juges qui sont les juges antiterroristes français totalement inféodés ou totalement en relation très intime, pourrait-on dire, avec les services de renseignement, ça n'a pas été le cas en Angleterre, où des juges ont cassé précisément les volontés gouvernementales de développer, où la Chambre des Lords elle-même, qui est pourtant extraordinairement conservatrice, a refusé les logiques de suspicion qui étaient celles du gouvernement. On a en France une superposition, vous voyez, de la figure du suspect et de la figure du coupable. Ce qui est loin, et très souvent très loin, d'être exactement la même chose.
Parce qu'en France, il y a un appareil judiciaire spécifique pour la question du terrorisme.
Et sur ces logiques de liberté, on voit, là, Laurent serait mieux placé que moi pour en parler, mais comme il a beaucoup parlé, en fait, à partir du moment où on est dans des logiques, effectivement, ou apocalyptiques, en réalité, où on est dans une lutte à mort, où finalement on risque de mourir à tout moment, chacun d'entre nous risque de mourir à tout moment, il y a une sorte de hiérarchisation des libertés, et on va dire la sécurité... Donc le droit de vivre, d'une certaine façon, est la première des libertés. Et à partir du moment où il faut sauvegarder cette liberté fondamentale qui est celle de vivre, les autres libertés, liberté d'expression, liberté, toutes les libertés, finalement, deviennent secondaires. Donc ça, c'est quand même une logique de fond qui est assez générale, à mon avis, dans l'ensemble des cas qu'on a étudiés, quoi.
Alors je crois qu'elle est d'autant plus générale que, fondamentalement, très souvent, il s'agit surtout de sacrifier les libertés des autres. Et je crois que ça, c'est sans doute un des fondements de tous les dispositifs antiterroristes qu'on a pu observer. C'est que, précisément, ils portent essentiellement, ils peuvent théoriquement toucher l'ensemble des citoyens, ils portent pratiquement sur certains groupes qui sont construits comme ce qui sont des profils à risque, c'est-à-dire des groupes construits comme groupes à risque. Et je crois que le fait qu'ils portent spécifiquement sur des groupes construits comme groupes à risque, c'est aussi la condition de possibilité qu'ils puissent fonctionner. J'en voudrais pour preuve le fait de ce qui vient de se passer avec Edwige. Je crois que Edwige, le fichier Edwige en France qui a suscité une mobilisation très intéressante, très importante et je crois absolument nécessaire, que s'est-il passé? Alors Edwige, je dirais, n'est pas une nouvelle invention d'un nouveau fichier. Edwige, ça a été la clarification, c'est un des avatars de la réforme des services de renseignement français. Puisque vous savez que les RG ont été fusionnés avec la DST pour devenir un grand service, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Mais les RG, bon, ça j'ai eu l'occasion de le développer ailleurs, dans les années 90, pour sauver leur peau, parce qu'ils sont menacés, parce qu'on va les supprimer, s'intéressent aux violences urbaines. Qui était, alors que c'est une police politique qui s'intéresse aux violences urbaines, c'est un peu étonnant, mais enfin bref, ils se reconstruisent une légitimité là-dessus. Et un des effets, je dirais non voulu, de cette nouvelle légitimité qu'ils essaient de construire sur les violences urbaines, c'est qu'ils font des fichiers sur les fauteurs de troubles de violences urbaines. Bon. Et quand il s'agit de refondre les services de renseignement, bah, tout simplement on met à plat les fichiers qu'ils ont, mais on s'aperçoit que les RG ont un fichier bah, sur le personnel politique, syndical, associatif, militant, police politique, on pourrait dire traditionnel, hein, et un fichier sur les fauteurs de troubles dans les quartiers. Et donc, Edwige, on dit, bah, donc on va faire quelque chose, on va regarder, bah, on va faire les militants, et puis aussi les fauteurs de troubles dans les quartiers. C'est pas simple, c'est pas une volonté, on s'est pas dit tiens on va le faire, non, c'est tout simplement on prend acte de l'existant. Bon. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, pourquoi Edwige, la mobilisation Edwige est intéressante? Parce que précisément, la mobilisation Edwige, c'est à partir du moment, aussi longtemps finalement, que ce fichier concerne certains groupes construits comme dangereux. Ça ne pose pas de problème. Exemple, Christine. L'autre fichier qui est mis à plat dans cette question-là. Très peu de contestations de Christine. Christina est un fichier beaucoup plus dangereux. Comme le faisait remarquer Jean-Marc Manac, qui est un journaliste, qui, de manière intéressante, il faisait remarquer qu'est-ce qui est plus dangereux. Dire un fichier qui existait déjà, qui va être consulté par un quart des policiers qu'il consultait jusque-là, c'est le cas des fichiers Edwige par les RG, ou un fichier dont on ne sait rien, qui va être consulté par trois fois plus de policiers que celui antérieur. Si je vous donne spontanément cette question-là, vous allez peut-être me répondre option numéro 2. Alors l'option numéro 2, c'est Christine. Mais pourquoi Edwige est une mobilisation intéressante? Parce que précisément, on dépasse très largement la question des groupes à risque. Edwige était à un moment donné quelque chose qui était susceptible de toucher tout le monde, tout un chacun dans les choses, effectivement, bon, questions sexuelles, etc., qui sont des choses, des libertés intéressantes. Et une des grandes victoires, peut-être, ou la première victoire de la mobilisation contre Edwige, ça a été de poser sur le débat public la question de quelle est la limite du fichage, qui est-ce qu'on fiche, pourquoi, pour quelles raisons. Aussi longtemps que finalement ce sont ces groupes profilés à risque, finalement on a un silence assourdissant, je dirais, qui s'impose. Et c'est valable en France, et c'est valable dans l'ensemble, je dirais, des États qu'on a pu étudier.
Alors peut-être si on est sur cette question-là des mobilisations citoyennes ou des protestations démocratiques, il faut peut-être quand même dire un mot de quelle forme elles ont pris et surtout de quelle forme elles n'ont pas pris et peut-être aussi de est-ce qu'elles restent opérantes? Alors là, on déborde largement Edwige et sûrement le cadre national. C'est que ces protestations démocratiques semblent en perte de vitesse face à évidemment cette menace terroriste qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, le problème de ces mobilisations, c'est que c'est toujours difficile. C'est toujours très, très, très difficile de mobiliser sur un certain nombre de choses. Vous apercevez que les mobilisations contre Guantanamo, il y en a eu très peu. Donc, on s'aperçoit que l'une des principales formes de résistance qui existent à ce mouvement, c'est très souvent des formes qui viennent du droit. Tout simplement parce que vous avez une résistance de juristes. Ça oui, vous avez des résistances qui se font au travers des juristes. Ce sont des juristes qui se sont mobilisés contre Guantanamo. Ce sont des juristes, que ce soit les gens de la Chambre des Lords, des magistrats anglais qui ont mis en échec le gouvernement anglais et ses projets de rétention indéfinie. C'est la Cour constitutionnelle allemande qui s'est mobilisée contre un certain nombre de mesures très intrusives dans la vie des citoyens allemands. Bon, vous avez des résistances du point de vue du droit. Effectivement, parce que vous avez des avocats qui sont prêts à se battre sur ce terrain, qui est finalement le terrain juridique sur lequel ils peuvent se battre. Par contre, là où les choses sont plus compliquées, c'est au niveau politique. Parce que précisément, on s'aperçoit qu'il existe un consensus assez étonnant, peut-être, dans l'ensemble des forces politiques sur ces questions-là. Et on s'aperçoit, en faisant le panorama qu'on a pu faire, qui parcourt, pas simplement depuis le 11 septembre, mais qui parcourt les 30 ou les 40 dernières années dans une série d'États européens, que les différences gauche-droite en la matière, hélas, je dirais, ne sont pas très significatives. En Allemagne, ce sont des Verts qui ont fait passer les mesures les plus liberticides. Intéressant. En France, vous apercevez que la continuité entre ce qui se passe au milieu des années 80 et ce qui se passe à la fin des années 80, quand vous avez une continuité assez parfaite, je dirais, des législations antiterroristes. Et peut-être tout simplement parce que le monde de l'antiterrorisme est partout un petit monde. C'est un petit monde qui est fait de collusions entre certains, en France, certains magistrats spécialisés, certains services, certains hommes politiques spécialisés sur ces questions, certains hauts fonctionnaires spécialisés sur ces questions. Un monde assez opaque, complètement absent du débat public, je pourrais dire, et sans doute l'un des leviers de résistance pourrait être, et c'est pour ça que je vais un point optimiste sur la question d'Edwige, c'est précisément de remettre au centre du débat politique la question de savoir quelle sécurité est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on accepte en matière de fichage, qu'est-ce que l'on accepte en matière de contrôle, qui sont des thèmes qui précisément sont aujourd'hui, ne peuvent fonctionner que parce qu'ils sont tus, que parce qu'ils sont opaques. Et je crois que l'une des manifestations les plus évidentes de ça, c'était que Michel Alliot-Marie a essayé de faire passer la construction de ces nouveaux fichiers sans même qu'ils soient publiés au bulletin officiel, c'est-à-dire sans même en informer la représentation nationale. Quelque chose d'assez merveilleux. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il y a sans doute un déficit politique de prise en charge des questions de sécurité qui semblent devenues effectivement des questions existentielles, alors que je crois que l'actualité quotidienne nous rappelle que les questions existentielles, elles vont bien au-delà de la sécurité.
Et puis une autre question aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il pourrait y avoir des mobilisations sur un certain nombre de phénomènes liés à la sécurité ou au terrorisme, les gens qui pourraient se mobiliser ont peur d'être assimilés comme complices du terrorisme ou de l'islamisme ou de je ne sais quel autre phénomène. Donc ça pose quand même un problème, c'est que, par exemple, tu parlais de Follembray tout à l'heure, quand les gens ont été assignés à résidence sous les caméras, sous les flashs pendant un mois, personne ne s'est mobilisé parce que le récit justement qu'il y avait autour de ces gens, c'était que c'était des dangereux terroristes. Donc on ne va pas aller se mobiliser pour défendre leurs droits. Donc il y a quand même ce problème-là. Et là, pour revenir sur la question du consensus gauche-droite, Nicolas Sarkozy avait dit dans une émission que essayer d'expliquer les phénomènes des terroristes, c'était finalement les excuser. Or, qu'est-ce qu'on retrouve dans le nouveau chef-d'œuvre de Bertrand Delanoë, de l'audace? Il a l'audace de dire exactement la même chose. C'est-à-dire, il dit exactement la même chose, mot pour mot.
Non, mais je crois que c'est pour ça que je crois que ce qu'on a dit tout à l'heure était vraiment intéressant. Cette position de tierce partie est vraiment impressionnante, est vraiment importante. Il existe des véritables salauds. Il y a des islamistes radicaux qui sont des véritables salauds, il faut le dire. Et se battre pour les droits d'un certain nombre de gens, mais je dirais, on retrouve pour là, en même temps, ça semble poser problème vers un camp progressiste, alors que je crois que personne n'a pourtant de remords à se battre contre la peine de mort aux États-Unis. Alors même que certaines personnes qui sont le couleur de la mort ont égorgé, violé, etc., 50 personnes, etc. C'est-à-dire sont des...
Le droit, c'est le droit, les salauds, c'est les salauds.
Les salauds sont les salauds. Je crois que précisément, ce qui fonde jusqu'à présent
nos
états de droit, c'est précisément que même les salauds y ont des droits. Et ça, c'est sans doute une des choses qu'on est en train de perdre en ce moment.
Voilà, ça fera office de conclusion puisque l'émission arrive à son terme. On rappelle donc l'ouvrage pour lequel vous étiez avec nous ce soir. C'était donc un livre publié sous la direction de Didier Bigot, Laurent Bonelli et Thomas Deltombe. Au nom du 11 septembre, les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme. Près d'une trentaine de contributions de chercheurs d'un peu tous les pays. Tout un tas de choses d'ailleurs qu'on n'a évidemment pas eu le temps d'évoquer dans cette émission décidément trop courte. Et c'est publié aux éditions La Découverte et ça coûte 23 euros.